Merci Seigneur pour ta bonté. On lui rend grâce, n'est-ce pas? Non, peut-être qu'on ne réalise pas toujours à quel point Dieu est bon envers chacun de nous, mais c'est une réalité, Dieu est bon. Voilà, ce matin, je vais donc continuer à vous partager sur ce thème « Christ et l'Église », qu'on a commencé, donc c'est le quatrième dimanche. Et donc, on s'est arrêté particulièrement sur le verset de Colossiens 3, au verset 13. Et ce matin, dans les chants, on a proclamé l'amour de Dieu. Ça, c'est vrai, Dieu est amour. Et quand on parle de ce thème, par exemple, Christ et l'Église, la caractéristique principale de Christ, je pense qu'on en est tous conscients, c'est son amour inconditionnel, son amour parfait, infini. Enfin, on est même incapable de le mesurer, en tout cas, moi, je suis incapable de le mesurer. Mais en tout cas, je suis tellement reconnaissant au Seigneur d'en être le bénéficiaire. Christ est amour. Et de nouveau, je répète, quand on vient dans ce thème qui est défini, enfin, qui est partagé, que Paul va partager dans les Colossiens, et de nouveau, je vous répète, je vous encourage à relire les Colossiens, enfin les quatre chapitres, c'est pas beaucoup, mais ce qui caractérise le corps de Christ, donc Christ et l'Église, parce que l'Église, bien sûr, c'est le corps de Christ, et ce qui caractérise le corps de Christ, eh bien, c'est l'amour qui règne, mais pas l'amour défini par nos critères humains. L'amour défini par les critères de Dieu. Et comment je vais dire ça? Quelque part, Christ, au travers de l'Église, c'est même pas quelque part, c'est une réalité, Christ, au travers de l'Église, veut montrer qui il est. Et c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est appelé à se laisser modeler, transformer, être dans cette nouvelle humanité, dans cette nouvelle nature, pour montrer justement qui est Christ. L'Église est celle qui montre Jésus. Alors je sais, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi j'aime bien me le répéter, j'aime bien d'en prendre encore une fois conscience que je ne suis pas là pour vivre une religion humaine, mais je suis là pour vivre cette relation avec le Christ. Quand on parle de l'Église, en tout cas quand la Bible parle de l'Église, elle ne parle pas du bâtiment, elle ne parle pas des structures humaines, même si c'est nécessaire, les structures, bien sûr, mais elle parle de cette réalité de la vie de Christ en chacun des enfants de Dieu. Elle parle de la réalité de ce que je suis dans mon vécu. Alors, frères et sœurs, quand on regarde dans notre vécu les uns les autres, bien sûr qu'on s'aperçoit, si on est honnête devant Dieu, mais je vous encourage de toute façon à être honnête devant Dieu, ça ne sert à rien de lui cacher quoi que ce soit, de toute façon, il sait tout. Mais quand on vient devant Dieu, et puis et quand on médite sa parole, quand on regarde sa parole, vous savez, quand Dieu nous donne sa parole, encore une fois, eh bien, comment je vais dire ça? Quand on regarde la parole de Dieu, des fois, on prend des claques quand même, je ne sais pas, peut-être pas vous, mais moi j'en prends. Quand je lis la Bible, quelquefois, c'est un peu comme si, je vais employer cette expression, mais Dieu me bottait le derrière, quoi. Mais merci Seigneur, parce qu'il le fait. Et en tout cas, tout ce que Dieu désire, et tout ce que Dieu désire que l'Église reflète, donc que son corps reflète, eh bien c'est sa nature. Et ce n'est pas quelque chose, seulement d'intellectuel. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la réflexion. Ce n'est pas seulement dans le... Je ne sais pas comment dire, mais enfin, dans une espèce de religion qu'on pourrait vivre en suivant simplement des principes. Non, c'est dans la réalité, encore une fois, de notre vécu. Frères et sœurs, nous sommes l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Et dans cette Église, corps de Christ, Dieu définit dans sa parole, au travers de ses serviteurs, au travers de Jésus lui-même. On a déjà vu, peut-être que ce matin, j'aurai le temps encore de partager quelques textes, mais on a vu au travers de ce qu'en dit l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ce que Dieu voit dans le concret de ce qu'est l'Église, dans nos comportements les uns envers les autres. Je vous répète, je vous l'ai déjà dit, mais je suis étonné, mais je suis interpellé par le poids ou l'importance, je veux dire comme ça, l'importance que Dieu attache à nos relations les uns avec les autres. Quelle importance ! Peut-être qu'il faut qu'on se laisse interpeller par cette importance. Parce que si c'est important aux yeux de Dieu, eh bien ça doit être important à nos yeux. Tout au moins, si on veut vivre ce que Dieu attend, si on veut être vraiment l'Église. Après, si ça ne nous intéresse pas, si on choisit de ne pas être l'Église, ou juste que ce soit un nom pour nous, alors là, c'est autre chose. Mais si mon cœur est ce cœur qui désire être cet enfant de Dieu, eh bien alors je vais être intéressé. Nos relations sont importantes aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous donne des principes très concrets. Très concrets. Alors, je vais juste relire ce verset qu'on regarde depuis, on va dire 4 dimanches maintenant, mais ce verset de Colossiens, tout d'abord dans le verset 11, où Paul va faire référence à cette nouvelle humanité. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on ne doit pas rester dans nos anciens comportements, on ne doit pas vivre avec notre nature adamique, mais on doit se laisser renouveler dans notre vie de tous les jours. Ne pensons jamais que nous sommes arrivés. Parce que si on ne se laisse pas renouveler par cette nature, nouvelle nature que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, que Dieu vient transformer en nous par sa parole et par l'action de son esprit, vous savez quoi, notre nature adamique, elle va vite reprendre le galop, hein, enfin le dessus plutôt. Et donc, on est dans cette nouvelle humanité où ici, c'est Christ qui habite en nous. C'est lui qui vient inspirer nos cœurs et nos pensées. Et puis dans ce cadre-là, eh bien, au verset 13 de Colossiens 3, il est dit ceci, hein, encore une fois, ça fait 4 dimanches que je le lis, mais si vous trouvez à critiquer votre frère, portez, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très concret. Alors, bon, on en a déjà bien parlé, et ce matin, j'aimerais vous dire encore une fois à quel point, derrière ce critère-là, il y a une dimension, comment je peux dire, phénoménale de l'amour de Dieu, de cette définition d'amour. Jésus, on l'avait lu dans certains textes, où l'apôtre Paul là, ne dit pas comme ça pour rien. Mais il nous révèle, il nous bouscule peut-être, ou il nous interpelle en tout cas, parce que dans le corps de Christ, encore une fois, eh bien, c'est l'amour de Jésus qui doit être manifesté. Hier, on a regardé avec Monique ce film « Le cœur de l'homme ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, hein, c'est un film chrétien qui parle des addictions, notamment des addictions sexuelles, mais quelque part, quelle que soit l'addiction, en quelque sorte. Et dans ce film, on montre une réalité, c'est cette réalité de l'amour inconditionnel de Dieu. Et cet amour inconditionnel de Dieu, eh bien, il vit dans l'Église. Donc, il vit en chacun de nous. Et quand l'apôtre Paul va donner ses éléments, et quand Jésus lui-même va donner un certain nombre d'éléments, on les a déjà vus, puis on en reverra encore ce matin, eh bien, on ne peut pas regarder ça en dehors de cet amour qui doit régner au milieu de nous. Dans tout ce qui est écrit et dans nos relations fraternelles les uns avec les autres, ça doit être impactés parce que nous vivons dans une nature renouvelée, eh bien, ça doit être impacté par l'amour de Dieu. Et quand c'est impacté par nos réactions humaines, naturelles, adamiques, eh bien, c'est qu'on a besoin de revenir, se laisser transformer au pied du Seigneur. Je sais, parce que moi, je suis un être humain comme vous, que ma nature, elle a vite fait de vivre avec des choses qui ne sont pas forcément droites aux yeux de Dieu. C'est plus naturel dans notre humanité à cause de cette nature adamique, et Paul, enfin, vous le savez bien, va dire qu'on doit la faire mourir chaque jour jusqu'à la fin. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle sera toujours là pour essayer de nous pousser à ne pas vivre l'amour de Dieu. Frères et sœurs, je répète, c'est ce que dit encore de nouveau l'apôtre Paul ici, mais dans nos relations les uns avec les autres, on doit se laisser transformer parce qu'il est le reflet de l'amour de Dieu et pas par nos comportements, pas par nos réactions seulement humaines, mais par des réactions, je veux dire, humaines, alors qu'elles sont transformées par l'Esprit de Dieu. Alors, on va lire de nouveau un certain nombre de textes. On va prendre Éphésiens, chapitre 4. Donc, pareil, Paul dit, il va donner des choses concrètes. Donc, on doit vivre les uns et les autres, parce que on est des enfants de Dieu, ou alors c'est que Dieu ne nous intéresse pas, finalement. Alors, Paul va dire ceci, Éphésiens 4, « Voici ce que je vous demande, au verset 1er, avec force, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. » Donc, vivez en accord avec ce que Dieu attend, avec cette nature transformée, avec cette nouvelle humanité, changé par l'Esprit de Dieu. Et Paul va insister en disant, je vous le demande avec force. Enfin, prenez-le vraiment, quoi. Saisissez. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Alors il va dire ceci, ça veut dire quoi? Par exemple, au verset 2, il va dire, mais soyez simples, comme Jésus. Soyez doux, patient, il donne des caractéristiques concrètes. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Peut-être qu'on aurait besoin d'un certain temps pour que ça rentre, dans nos cœurs. Je ne sais pas ce que... Quel impact ça fait dans vos cœurs de lire cette parole? Est-ce que ça vous fait rien? Ou est-ce que le fait que Paul va dire ici, chercher toujours à rester unis par l'Esprit Saint, ça veut dire quoi? Alors, moi, je vais dire peut-être la première réflexion, c'est que si Paul nous dit qu'on doit chercher à rester unis, ça veut dire que dans notre vie, eh bien, forcément, il y a des moments où il y a des occasions où... les circonstances, le caractère des uns et des autres, vont provoquer des désunions, si je puis dire. Mais Paul va dire, voilà, cherchez à rester unis. S'il y a ces occasions-là, eh bien, travaillez à ce qu'elles ne viennent pas vous séparer. Parce que des occasions comme ça, qui chercheront à vous désunir, il y en aura. Alors, cherchez à rester unis. Et puis, il va dire, par l'Esprit Saint, donc c'est parce que Dieu vient changer nos cœurs, vient toucher nos vies, et puis il dit, c'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Pourquoi est-ce que c'est lui? Parce que quand on vient au pied du Seigneur, et peut-être que des fois on a besoin, quand on se rend compte qu'on laisse exploser notre nature adamique qui n'est pas à l'image de Dieu, à qui ça n'est jamais arrivé ici, je pense que ça nous est tous arrivé. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Oh, frères et sœurs, on doit venir au pied de Jésus. On doit venir prier, déposer ce qu'on est, puis dire, Seigneur, viens, viens changer ma nature, parce que je sais que ce n'est pas ta nature, ça. Je sais que ce n'est pas ce que toi, tu veux. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. C'est lui qui est notre source. Et au verset 17, Paul va dire aux Éphésiens, c'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur, ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Encore une fois, en ce qui me concerne, je trouve que c'est quelque chose de très concret. Enfin, ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu connais Dieu ? Bon, peut-être qu'on ne le connaît pas parfaitement encore, hein, mais on a encore du chemin devant nous. On a besoin d'apprendre encore. Mais la connaissance de Dieu, elle vient dans cette intimité avec lui, dans la méditation de sa parole. Quand on laisse cet esprit de Dieu changer nos cœurs, on en a besoin. Alors, si c'est ça, eh bien, je ne vis plus comme avant. Je ne vis plus, ça ne veut pas dire que les impulsions de ma nature adamique ne sont plus là, elles seront toujours là jusqu'à la fin de nos jours. Mais en tout cas, ce n'est plus elles qui me gouvernent. Quand quelqu'un me fait du mal, par exemple, eh bien, ma nature adamique, elle va vouloir lui rendre l'appareil éventuellement. Mais parce que je suis un enfant de Dieu transformé, eh bien, c'est plutôt l'amour qui va venir dans mon cœur. Et puis, plutôt que de vouloir détruire cette personne, eh bien, je vais prier, la bénir, par exemple. Et on verra, Jésus va nous enseigner que c'est ce qu'on doit faire, d'ailleurs. En tout cas, ici, Paul va dire, ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comment est-ce que tu vis ? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui connaît Dieu ou comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ? Parce que si tu vis comme quelqu'un qui connaît Dieu, alors ce qui va conduire tes actions, ce qui va conduire tes paroles aussi, ce qui va conduire tes actes, eh bien, c'est l'amour de Dieu. Ça change tout, frères et sœurs. Quand l'amour de Dieu nous conduit, ça change tout. En tout cas, ici, il nous est dit qu'on ne doit pas... Paul dit, ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et il va continuer en disant, leur pensée, de toute façon, ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit. Ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ah oui, c'est sûr que si on veut vivre l'amour de Dieu, eh bien, il faut qu'on ouvre notre cœur. Il faut qu'on demande... Enfin, il faut vraiment qu'on ait envie que Dieu vienne en nous, changer nos cœurs, changer cette nature. Et au verset 23, il va dire « Comprenez les choses d'une façon nouvelle, c'est-à-dire selon l'Esprit de Dieu. » Encore une fois, pas avec mes impulsions naturelles, quand elles sont contraires à l'Esprit de Dieu. Mais je dois chercher à regarder et à comprendre les choses avec l'Esprit de Dieu, quoi. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu, et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une nouvelle personne. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Devenez une nouvelle personne. C'est devenez EZ. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose où on doit se sentir concerné, où on a notre part à faire. Devenez une nouvelle personne. Je dois choisir de devenir cette nouvelle personne. Je dois choisir de laisser l'Esprit de Dieu transformer mon cœur pour que je puisse vivre cet amour qu'on a chanté d'ailleurs tout à l'heure et qui va permettre qu'on... Entre nous, on ait des relations qui soient imprégnées de cet amour. Ça veut dire quoi ? Au verset 29, voilà ce que va dire Paul. Voilà, il va donner des choses précises. Par exemple, il va dire « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. » Ça va ? Je répète. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Est-ce que ça ne vous arrive jamais ? Je pense que peut-être que ça peut nous arriver à chacun de nous. Mais j'aimerais vous dire que ce que Dieu fait dans mon cœur, par exemple, c'est que je ne veux pas dire que ça ne m'arrive jamais, mais je vois que Dieu agit dans mon cœur et devant lui, je crois que je peux dire quand même que ça m'arrive très peu. Et merci Seigneur. Mais en tout cas, voilà, qu'aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles. Écoutez bien, comparativement aux paroles mauvaises qui peuvent sortir de notre bouche, Paul va dire, dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien. Plutôt que de dénigrer quelqu'un, par exemple, plutôt que de dire des choses ou de raconter enfin, ce qu'un frère ou une sœur a fait de mal, par exemple. Ça, c'est notre nature humaine. Eh bien, dites plutôt des paroles utiles qui vont aider cette personne, par exemple, et qui vont lui faire du bien. Est-ce que c'est ce qu'on fait ? En tout cas, c'est ce qui est vécu dans la vraie Église. C'est ce qui est vécu là où on est vraiment des enfants de Dieu. Pourquoi ? Paul le dit, je continue le verset 29, et le verset 30. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Ouais, son esprit me touche, moi il me parle, comme il vous parle à vous. Je sais, je réalise, je suis en chemin bien sûr, et Dieu il me transforme à son image un petit peu à la fois. Mais Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors ne faites pas de peine à cet Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Au verset 31, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous fait. Votre avis, ça veut dire quoi ? Vous savez ce qui se passe quand on garde dans notre cœur le mal qu'on nous fait ? Ça ne fait pas bien. Ça ne nous fait pas du bien. Et puis, ça ne fait pas du bien aux autres. Ça ne fait pas du bien dans nos relations. Ce qui se passe, c'est que quand on garde dans nos cœurs le mal qu'on nous fait, eh bien, il y a l'amertume qui vient. C'est comme un poison violent. On est en train de se détruire. On a détruit les autres aussi. On ne retrouve pas... il n'y a pas l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Ça, c'est la caractéristique de notre nature adamique. En tout cas, moi, je la saisis pour moi. C'est-à-dire, naturellement, si je ne laisse pas mon cœur être touché par l'amour de Dieu, eh bien, quand on me fait du mal, ça va ronger. Et puis, c'est facile de s'énerver, comme de se mettre en colère. Ça, c'est notre nature adamique. Alors Paul dit, mais il faut faire disparaître tout ça. Les cris, les insultes. Alors, merci Seigneur, je ne suis pas quelqu'un qui est de nature à insulter facilement, mais je sais que pour certains, c'est quand même quelque chose qui est dans leur nature. Mais Paul va dire, mais il faut faire disparaître tout ça. Par contre, quand on est rempli de l'amour de Dieu, quand on est l'Église, eh bien, au verset 32, Paul va donner la contrepartie à ce qu'il vient de donner précédemment. C'est-à-dire, il va dire, maintenant, mais soyez bons les uns avec les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné. Voilà ce qu'est l'Église. Et puis, donc là, c'est encore une fois, c'est Paul. Hein, donc Paul le dit aux Galates, il le dit enfin, aux Éphésiens, il le dit aux Corinthiens, enfin, il le dit, on va le retrouver dans... C'est pour ça, on va le retrouver tout le temps, finalement. Lisez le Nouveau Testament, vous allez voir l'importance que Dieu attache à nos comportements, à nos relations, à nos paroles. Moi, je suis interpellé. Mais même Jésus lui-même, il va dire des choses précises. Donc, on en a déjà vu un certain nombre, mais dans Luc, par exemple, au chapitre 6, au verset 26, 27, Jésus donc va dire ceci. Aimez vos ennemis. Ça va ? C'est ce que vous faites ? En tout cas, c'est ce que fait l'enfant de Dieu. Est-ce que c'est naturel ? Ben non. Ça devient naturel quand on est transformé par l'Esprit de Dieu, quand on laisse l'amour de Dieu toucher, changer nos cœurs, changer nos vies. Enfin, c'est sûr, dans l'Église, c'est ce qu'on doit vivre. Aimez vos ennemis. Et quand Dieu dit aimez vos ennemis, hein, c'est, il prend, encore une fois, il ne prend pas les critères d'amour humain, hein, c'est les critères d'amour divin, cet amour inconditionnel. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Donc, aimez vos ennemis, c'est une chose. Alors, on peut se dire, bah oui, allez, c'est tout, je l'aime, quoi. Je ne vais pas lui rendre le mal pour le mal. Mais Jésus va plus loin. Hein. Il dit, faites du bien à ceux qui vous détestent. C'est-à-dire, non seulement tu ne vas pas lui rendre le mal pour le mal, mais il te fait du mal, bah toi, tu vas lui faire du bien. Alors, peut-être que ça semble fou, enfin... Seigneur, comment c'est possible que tu puisses dire une chose pareille, quoi. C'est franchement, Seigneur, là tu vas un peu loin, quoi. J'aimerais juste vous rappeler, frères et sœurs, c'est exactement ce que Jésus fait pour chacun de nous. C'est exactement ce que Jésus fait pour toi. Frères et sœurs, si Jésus le fait pour toi, toi tu peux aussi le faire pour les autres. Si Jésus le fait pour moi, je peux aussi le faire pour l'autre. Et je continue ce que Jésus dit au verset 28. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Pour moi, ce n'est pas une parole en l'air. Ce sont des choses concrètes. Ce sont des choses que nous... Enfin, n'importe qui d'entre nous, on a déjà connu des situations où des gens nous voulaient du mal. Où des gens nous faisaient du mal. Eh bien, à ceux qui nous souhaitent du mal, eh bien, vous lui souhaitez du bien. Enfin, l'enfant de Dieu que je suis, qui est transformé, ce n'est pas ma nature adamique, ça, ce n'est pas ma nature charnelle, mais c'est cette nature transformée par l'Esprit de Dieu. On veut du mal, ben moi, je lui souhaite du bien. Et Jésus va dire, priez pour ceux qui disent du mal de vous. Et au verset 33, il va dire, mais de toute façon, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Hein. Les pécheurs font comme vous, quoi. C'est naturel. Hein. Mais au verset 35, il va de nouveau réinsister Jésus. Je vous répète, c'est Jésus qui est en train de parler ici. Il va dire au contraire, vous aimez vos ennemis, faites du bien. Et puis, il va dire ceci, parce que si tu fais ça, de toute façon, ne pense pas que tu fais ça dans le vide. Tu ne fais pas ça pour avoir quelque chose, tu fais ça parce que l'Esprit de Dieu, enfin l'amour que Dieu a pour toi est descendu dans ta vie, et puis ben, c'est cet amour-là, ben, tu es en train de le vivre. Et parce que tu le vis, ben, tu le communiques aux autres comme Jésus te l'a communiqué, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 35, Jésus dit, mais alors vous aurez une grande récompense, même si on ne le fait pas pour avoir une récompense. Parce que l'amour est inconditionnel, mais en tout cas, vous aurez une grande récompense, vous serez les fils du Très-Haut. vous serez les enfants de Dieu qui un jour vivront l'éternité avec lui. Ce n'est pas un problème pour vous. Ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Ce n'est pas enfin, ce qui... Je ne sais pas, mais en tout cas, il suffit de lire l'Apocalypse tout à la fin, dans les derniers versets, hein, où il est dit, et l'esprit et l'épouse dit, viens Seigneur. Votre espérance, est-ce qu'elle est seulement attachée à votre vie terrestre? Ou est-ce que votre espérance est attachée aussi à la vie céleste? Moi, je vous encourage à vous poser la question. Parce que se poser la question, ça peut changer toute votre vie. Mon espérance est attachée à la vie céleste. En tout cas, Jésus dit aussi, au verset 30, dit ici au verset 35, vous aurez une grande récompense, vous serez les fils et les filles du Très-Haut. Et il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent pas merci et pour les méchants. Voilà la caractéristique de l'amour de Dieu. Et cette caractéristique que nous devons nous avoir aussi. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Le « comme » ici est très important. Soyez pleins de bonté, pas avec, encore une fois, nos critères humains. Parce que dans nos critères humains, on peut mettre des limites. Hein. Mais ici, il est dit, soyez bons donc avec les autres, même avec ceux qui vous font du mal, parce qu'on doit être bon comme notre Père, lui, est bon. C'est-à-dire notre référence, jusqu'où doit aller notre bonté? Eh bien, regardons la bonté de Dieu et puis alignons-nous sur la bonté de Dieu. Au verset 37, ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. Là encore, frères et sœurs, je pense que je n'ai pas besoin de commenter. Hein, ne jugez pas les autres et Dieu ne vous... Enfin, ne jugez pas les autres, ça fait partie de notre nature adamique. Hein, comment est-ce que... Enfin, on juge tellement facilement notre prochain. Hein, enfin, non seulement on juge, mais en plus on le condamne. On oublie qu'on sera mesuré avec la mesure dont on se sert. Ça, c'est aussi une parole de Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici, au verset 38, « Donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés et déborderont. En effet, oh, frères et sœurs, ce serait dommage pour nous de ne pas prendre en compte ce texte-là. Écoutez bien. En effet, Dieu vous donnera comme vous vous donnez aux autres. La façon dont vous vous comportez avec l'autre rentre dans les critères que Dieu met en place. Tu pardonnes à l'autre, Dieu te pardonne. Tu aimes l'autre, eh bien, tu bénéficies de l'amour de Dieu. Tu fais du bien à l'autre, Dieu te fera du bien. En Romains chapitre 2, au verset 6, Paul va dire que Dieu traitera chacun conformément à ses actes. Je sais que, et ça, enfin, ce texte-là, enfin, on va le retrouver, je ne sais pas combien de fois, dans la Bible. Hein. C'est, enfin, si on ne comprend pas ça, je ne sais pas, mais pour moi, c'est tellement clair. C'est que la façon dont je me comporte, et une incidence. La façon dont je me comporte dans mes relations avec mon frère, ma sœur, a une incidence. Dieu traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire du bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. On serait fou, hein, de ne pas réaliser ça. Verset 29. « Paul va dire que celui, le vrai juif, hein, celui, enfin, c'est celui qu'il est intérieurement. La vraie circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif, ne vient pas des hommes, mais il vient de Dieu. Vous savez, en règle générale, on est très intéressé par le regard de notre prochain sur nous. Mais ici, ce que Paul dit, c'est que, premièrement, donc, enfin, la vraie circoncision, hein, celle qui marque le fait qu'on est enfant de Dieu, eh bien, c'est cette circoncision de notre cœur. Quand notre cœur est changé, transformé par l'Esprit de Dieu, parce que je laisse Dieu transformer ma vie, parce que je choisis, parce que je désire, parce que je demande au Seigneur, ben, Seigneur, je veux vivre selon tes pensées, ta volonté. Je ne veux pas vivre seulement ma nature humaine, enfin, adamique plutôt. Et Paul dit dans ce texte que enfin, ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est justement cette circoncision accomplie par l'Esprit, parce que Dieu fait en moi. Et quand Dieu transforme ma vie, parce que je suis transformé, alors je pardonne l'autre, je ne juge pas, enfin, je ne condamne pas simplement pour condamner, je ne suis pas celui qui cherche le mal à l'autre, je ne suis pas celui qui critique tout le temps, je suis celui qui porte, qui supporte mon frère et ma sœur, malgré, ben, parce que, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a personne sur Terre qui est parfait. Hein. On a tous nos défauts. Mais merci Seigneur, parce que malgré nos défauts, il nous aime. Il nous aime de cet amour, encore une fois, inconditionnel. Et ce qui est plus important pour nous, frères et sœurs, ce n'est pas le regard de l'autre, c'est le regard de Dieu. Vous savez, quelquefois, mon frère, ma sœur peut se tromper aussi à mon égard. Il peut penser que je suis quelqu'un de très bien alors que je suis quelqu'un de pas bien du tout, ou au contraire, penser que je suis quelqu'un de très mauvais alors que je peux être quelqu'un de bien. Ce qui compte le plus, je ne veux pas dire que ça ne compte pas, parce que c'est aussi le reflet de nos comportements, mais ce qui est le plus important, c'est le regard de Dieu sur ma vie. C'est ce qui doit m'interpeller le plus. Est-ce que ma vie reflète ce que Dieu attend de moi ? Je dois me poser la question. Et puis, je dois me laisser changer, transformer. Vous savez, on a lu, alors je vais clôturer là, parce que je vois qu'il est déjà 11h08, mais on a vu au travers de ces textes, hein, depuis 4 dimanches, là, que, encore une fois, je répète, nos comportements et nos relations les uns avec les autres, particulièrement dans l'Église, mais pas que, hein, sont importants aux yeux de Dieu. L'Église est la prunelle de ses yeux. Nous sommes la prunelle de ses yeux et nous sommes appelés à montrer encore une fois qui il est. Nous sommes appelés à montrer son amour, à le vivre au milieu de nous. On doit être un témoignage vivant de ce qu'est Jésus. Et quand on regarde, et puis au travers de tous ces textes, je vous le disais en introduction, mais on voit cette dimension d'amour de Dieu. Et en tout cas, une des conséquences de vivre cette vie-là, qui est conforme à la pensée de Dieu, de renoncer à notre nature adamique, eh bien, c'est cette vie éternelle. On l'a vu des fois précédentes, dimanche dernier, j'avais lu les textes, hein, qui nous le montrent bien. Et puis, les conséquences concrètes et pratiques dans la vie de l'Église, quand on ne suit pas tous ces textes qu'on a vus depuis 4 dimanches maintenant, et principalement donc ce texte de Colossiens 3, 13 que je vous ai lu tout à l'heure, hein, si vous trouvez à critiquer, etc., etc., ou le fait qu'on doit pardonner et toujours pardonner, par exemple, eh bien, vous savez, frères et sœurs, on le voit bien, dans l'Église, je vais parler donc de l'Église. Si on ne le fait pas, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu qui règne dans l'Église. Dans l'Église, il y a des divisions, il y a de l'amertume qui vient, il y a des frustrations. Mais quand chacun d'entre nous, on veut et on choisit de vivre ces réalités-là. Moi, je demande au Seigneur de m'aider à vivre ces réalités-là. Je demande au Seigneur de changer, de me transformer. Je suis conscient que je ne suis pas encore arrivé. J'ai besoin que Dieu continue son œuvre en moi, mais je désire tellement qu'il le fasse. Et s'il le fait, frères et sœurs, eh bien, vous savez, à la place d'avoir de l'amertume dans les relations, quelquefois, parce que il y a eu telle ou telle chose qui s'est passée. Voilà. Encore une fois, d'ailleurs, l'amertume qui est un poison violent, hein, ça nous détruit. Eh bien, il y a la paix qui règne. Quand on pardonne l'autre, on met une atmosphère de pardon, eh bien, on est rendu capable de se pardonner les uns les autres. Quand plutôt que de se critiquer les uns les autres, eh bien, on prend le temps de prier les uns pour les autres, par exemple, il y a une atmosphère qui change, forcément, parce qu'il y a l'atmosphère de l'amour de Dieu. J'ai souvent pensé, et je termine là-dessus, j'ai souvent pensé, parce que je l'ai constaté, encore une fois, je ne suis pas autrement qu'un autre, hein, je ne suis pas autrement que vous, le fait que, à cause justement de notre nature, qui n'est pas parfaite, on peut toujours se critiquer. Hein, et on ne doit pas le faire. Hein. Quand je remarque, c'est juste une remarque, hein, le temps, le nombre de paroles qu'on va prononcer pour critiquer ou se plaindre d'une personne, et si dans la balance à côté, on met le nombre de paroles où on a prié, intercédé devant Dieu pour cette personne, vous savez, la balance, elle est largement du côté négatif, hein, bien souvent. Mes frères et sœurs, dans l'Église, ça doit être dans l'autre sens. Plutôt que de critiquer, de parler sur le dos de l'un, le dos de l'autre, eh bien, écoutez, frères et sœurs, c'est ce que nous, on a lu d'ailleurs dans ces textes aujourd'hui, encore entre autres. On devrait prendre le temps de prier, d'intercéder pour notre frère, notre sœur, qui peut-être n'est pas bien ou qui, pour telle ou telle raison, a fait quelque chose qui n'était pas juste, même vis-à-vis à notre égard, plutôt que de le démolir, de dire du mal de lui, frères et sœurs. Ce que Dieu nous enseigne, c'est qu'on doit prier, on doit l'aimer, on doit le bénir. Ça, c'est la notion de l'amour de Dieu. Après, il y a la notion de notre amour, notre définition à nous. Dans notre humanité. Mais si on prend notre définition dans notre humanité, de toute façon, ça se voit après dans les relations, hein, entre nous, les conséquences ne seront pas terribles pour nous. Frères et sœurs, Dieu nous crie son amour, il nous crie de vivre la même chose, parce que quand on vit l'amour de Dieu, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Alors, j'arrête là pour ce matin, et puis on va prier pour terminer ce culte. Seigneur, on est humble devant toi ce matin. Seigneur, on veut vraiment venir à tes pieds parce qu'on veut vivre l'Église. Seigneur, tu es la tête. Seigneur, nous sommes ton corps. Seigneur, tu es ce Dieu qui manifeste tellement cet amour. Seigneur, dans la vraie Église, Seigneur, ce même amour est manifesté. Ce même amour est vécu. Ô Dieu, on a du chemin à faire encore, Seigneur. On a besoin de toi, on a besoin de ton aide, on a besoin d'être transformé, on a besoin d'être changé, Seigneur. Je te prie, Père, de faire ton œuvre en chacun de nous. Seigneur, que nous puissions manifester ce que tu es, Seigneur. Seigneur, et que nous puissions finalement, parce que quand on vit ce que toi, tu nous demandes de vivre, eh bien, enfin, entre nous, c'est bon. C'est la paix, cette paix parfaite que le monde ne peut donner. C'est ce que tu dis, mais c'est vrai, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ton amour et remplis-nous de ta paix. Je veux la proclamer, Seigneur, sur chacun de nous ce matin. Fortifie-nous en toi. Change-nous, Seigneur, encore. Et que ta gloire soit manifestée dans notre communauté, Seigneur. Dans notre vécu, ô Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen.